il y a un effet dépathologisant la première fois qu'on installe Grindr, surtout si on se construit un peu dans la solitude. Il y a ce côté de « je ne suis enfin plus seul ». C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Grindr. C'est pour les jeunes générations queer qui se sont construits avec cette appli-là. C'est devenu une solution et c'est devenu quelque chose de comme un réconfort dans la construction.
Bonjour à tous, je m'appelle Lucie. Bienvenue dans Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Je ne sais pas dire quand j'ai entendu le mot Grindr pour la première fois. Est-ce que c'était par une amie hétéro qui s'était créé un faux profil pour faire de la pub à son événement drag ? Est-ce que c'était par ce couple fou, amoureux et installé qui me raconte au détour d'une phrase que c'est par une tape sur l'appli que tout a commencé ? Est-ce que c'était via mon abonnement au compte Instagram qui recense les agressions racistes ou transphobes qui y ont lieu ? Je ne sais plus dire, mais ce que je sais, c'est que Grindr est un point commun qui relie toutes les personnes gays, PD et affiliées. On y croise son psy, ses amis, son prof, son voisin de palier et sa drag queen préférée. Je sais aussi que malgré sa mauvaise réputation d'appli violente qui traite le sexe et les personnes comme des produits de consommation, on peut y faire de belles rencontres. Et qu'après un hook-up, parfois, la conversation se poursuit tard dans la nuit, qu'on rentre chez soi avec le sentiment d'avoir fait une belle rencontre qui va compter. Une chose est sûre, on est en 2025, je vis à Paris depuis 10 ans, je suis ce qu'on appelle une Gwyn APD, et Grindr fait partie intégrante de mon monde et incarne une partie de la culture gay, qu'on le veuille ou non. Alors, grâce au travail inspirant de notre invité, j'ai eu envie de comprendre le phénomène Grindr. Parce que cette application, c'est avant tout un outil, donc ni bon ni mauvais en soi. Et je suis persuadée que les façons de relationner, de s'aimer et de faire du sexe, notamment via cette application, racontent beaucoup de la relation des PD à eux-mêmes. Thibault Lambert est notre invité du jour. Il vient de sortir son premier essai « Ce que Grindr a fait de nous » aux éditions J.C. Lattès dans la collection « Nouveau jour ». Bonjour Thibault et bienvenue
Bonjour.
Dans le lobby.
Merci de me recevoir.
Déjà, j'ai envie de te dire bravo et de te remercier parce que j'ai dévoré ton livre. C'est à la fois un travail documentaire très précis qui fait appel aux sciences sociales et à la fois un travail de l'intime car tu as écrit en puisant dans ton histoire personnelle. Ça rend le récit passionnant. Donc merci et bravo pour ça.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut commencer par une rapide définition de Grindr pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est ?
Grindr, c'est une application de rencontre géolocalisée, c'est-à-dire que c'est vraiment la géolocalisation, le GPS du téléphone qui est la caractéristique principale et l'outil principal de l'application, à destination des hommes queer. Parce que c'est quand même orienté très masculin et on y voit essentiellement des hommes, mais il y a aussi les affiliés, comme tu l'as dit, donc des personnes trans ou non binaires. C'est une appli qui commence à être assez vieille maintenant, parce qu'elle va fêter ses 16 ans cette année, au mois de mai. Et finalement, c'était la toute première application de rencontre géolocalisée. Elle est née en 2009, 3 ans avant Tinder. On s'en sert pour faire des rencontres, on s'en sert pour... discuter de toute autre sorte. Elle a été conçue normalement pour faciliter les rencontres entre hommes gays ou bi, voilà, aux États-Unis. Et maintenant, elle est à peu près partout, présente partout dans le monde. Et il y a quasiment 14 millions d'utilisateurs actifs chaque mois.
Ce qui est absolument énorme.
Ce qui est énorme, oui.
Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de son fondateur, Joël Simkay ?
Simkay, oui.
Il est new-yorkais, il a la trentaine quand il crée l'application.
C'est ça,
gay. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui ?
Alors, il est gay. Alors, ce qui est marrant avec Joël Simkay, c'est que c'est un new-yorkais pur jus. C'est-à-dire que sa famille vient d'Israël. Elle a déménagé aux États-Unis quand il avait 3 ans. Donc, il a grandi à New York dans une famille où finalement il a deux autres frères et ses deux autres frères aussi seront gays. Voilà, donc tous les enfants de la famille sont gays, ce qui est quand même assez amusant à noter. Mais sauf que pour autant, Joël Simkay, c'était quelqu'un qui assumait pas du tout son homosexualité, surtout quand il était à la fac à Boston. Il a fait des études d'informatique. Il a mis beaucoup de temps en fait à vraiment s'accepter lui-même. Et pour lui, sa sexualité, l'homosexualité, c'était quelque chose de caché. Il l'a raconté dans des interviews, dans beaucoup d'entretiens, qu'il avait des petites copines, des petites amies de façade en fait à la fac finalement. Et puis en parallèle, il allait sur les sites internet qui étaient vraiment les années de sa vingtaine, années 90-2000, qui étaient vraiment les endroits où faire des rencontres quand on était gay. Et en parallèle, voilà, il avait un peu en quelque sorte une double vie, une vie pour les autres, une vie de façade sociale et une vie affective et sexuelle un peu plus cachée. Et c'est un peu plus tard, quand il retourne à New York, que là, il commence un peu plus à s'assumer et à être lui-même. Voilà, c'est un peu ce qu'on sait. Et finalement, ce qu'on sait, c'est qu'il a pris goût aux rencontres qu'il faisait sur Internet avec les hommes. Et que plus il s'est assumé, plus il était frustré des rencontres qu'il faisait sur Internet. En tout cas, plutôt plus il était frustré de justement pas pouvoir faire autant de rencontres qu'il le voulait et pas de manière aussi efficace qu'il le voulait. Et finalement, c'est de là qu'est venu chez lui Grindr. En même temps, le Steve Jobs a lancé l'iPhone 3G et le GPS dessus. Et lui, qui a une fibre d'entrepreneur, il s'est dit... Voilà, là, j'ai trouvé un bon moyen de révolutionner la rencontre entre hommes avec le GPS. Tout sera plus facile. On pourra révéler les gays à côté de chez soi et les scanner en quelque sorte autour de soi. Et on pourra se rencontrer dans l'immédiateté beaucoup plus facilement.
Et effectivement, ouais, en te lisant, j'ai découvert avec beaucoup de surprise que Grindr était une app pionnière, parce que la première à utiliser la géolocalisation, comme tu viens d'expliquer. Et à cela, avant Tinder, avant d'autres applications hétéro qu'on connaît aujourd'hui, qui fonctionnent aussi avec ces infos-là de localisation, qui sont moins précises, mais qui sont là
qui
aussi.
Qui sont moins précises, ouais.
Et pourquoi est-ce que ça a complètement révolutionné ? Enfin, tu racontes différentes choses sur cette géolocalisation qui est présente dans l'application. Pourquoi est-ce que ça révolutionne les rencontres en ligne ?
Alors en fait, c'est tout le propos du livre, c'est de dire que ça révolutionne et à la fois ça révolutionne pas. Et donc en fait, mon enquête, en fait, elle part de ce postulat, de cette idée qu'on avait tous en tête, qui était de dire que Grindr avait vraiment révolutionné la rencontre entre hommes. C'est en partie vrai, mais ce que je raconte dans mon enquête, en m'appuyant sur les travaux historiques, les travaux des chercheurs et tout un tas de spécialistes de la drague et de l'homosexualité masculine, c'est que finalement, il n'y a pas tant de nouveautés dans Grindr, si ce n'est que c'est la géolocalisation qui vraiment a modifié la spatialité de la rencontre, en fait, si on veut. Pour faire simple, avant... on rencontrait plutôt les gens avant les applis et avant même les sites internet. Les homosexuels se rencontraient plutôt dans des lieux publics ou alors dans des lieux semi-publics du style des bars, cruising, etc. En tout cas, il y avait voilà, l'idée de se rendre quelque part pour faire des rencontres. Et il y a eu un phénomène que j'explique dans le livre qui touche pas que les gays, qui touche aussi tous les hétéros et la société. Ça s'appelle la privatisation des rencontres. Ça, c'est une sociologue, Marie Bergström, qui le raconte bien. C'est le côté, en fait, finalement, pour faire simple, nos grands-parents, ils se rencontraient dans un bal. Nos parents, ils se sont rencontrés chez des amis. Et nous, on se rencontre sur les applis. Mmh. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on ne va plus dans un lieu public, le cercle... les gens qui peuplent, qui sont autour de nous, et le décorum, le contexte social, il est de plus en plus rétréci, il y a de moins en moins de gens, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est en one-to-one sur une appli, donc il y a de moins en moins de gens. Et ça fait que là il y a une privatisation de la rencontre, donc Grindr arrive à ce moment-là finalement. Et ce qui change, c'est qu'avant, comme je disais, on allait dans un espace public, on fait avec ce que l'on a sur place. Et ce que me disait Laurent Guessad, le socio-anthropologue, c'est que maintenant, on fait avec ce que l'on cherche. C'est-à-dire que voilà, maintenant, la grande différence, c'est que la géolocalisation et le fait qu'on est tous sur notre smartphone fait qu'on a un flux incessant, un flux permanent, et que finalement, la magie Grindr, ça a été de concentrer à peu près tout le monde au même endroit.
À ce propos, tu racontes notamment quelque chose qui m'a beaucoup émue et qui a fait écho à mon propre usage des applications de rencontre en tant que Gwyn. Avoir tout d'un coup accès à la distance qui me sépare de mes semblables quand j'ai toujours pensé que j'étais seule au monde et anormale, c'est puissamment réconfortant. Toi, t'as pris conscience de ton homosexualité assez jeune, mais du coup, tu t'es aussi sentie très seule. Qu'est-ce que l'arrivée de Grindr a changé là-dedans ?
En fait, c'est vertigineux et c'est un soulagement. Mais je pèse le mot, c'est un vrai soulagement. C'est-à-dire que je suis dans mon petit village, là, en Vendée, et je vois d'un seul coup qu'il y a des profils autour de moi. Je me dis, mais je ne suis plus le seul. Et il y a un vrai soulagement. Il y a même un psy dans le livre qui m'a dit que ça participe. Enfin, Grindr a ce côté réconfortant. Il y a un effet dépathologisant la première fois qu'on installe Grindr, surtout si on se construit un peu dans la solitude. Il y a ce côté de « je ne suis enfin plus seul ». Et en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Grindr. C'est pour les jeunes générations queer qui se sont construites avec cette appli-là. C'est devenu une solution et c'est devenu quelque chose de comme un réconfort dans la construction.
Un réconfort et à la fois, il y a un côté paradoxal avec le sentiment de malaise que peut produire cette application. Tu nous dis que tu as téléchargé pour la première fois Grindr à 17 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans.
29 ans, c'est ça.
Donc, elle a fait partie intégrante, cette application, de ta construction en tant qu'adulte, dans ton passage à l'âge adulte. Enfin, ça t'a vraiment accompagné. Et au tout début du livre, tu nous expliques qu'elle a été le déclencheur de l'écriture. Tu nous dis « L'idée de ce livre a germé quand j'ai réussi à poser des mots sur le malaise que je ressentais dans ma sexualité. » Est-ce que ce constat de malaise, tu l'as aussi retrouvé dans tous les entretiens que tu as fait pour travailler sur cet essai ?
Et oui, dans beaucoup d'entretiens. Pas dans tous, mais dans beaucoup d'entretiens. Et en fait, je pense que c'est pas que dans mes entretiens. Ce qui m'a donné la puce à l'oreille la première fois, c'est moi, mon vécu par rapport à Grindr, mais aussi ce refrain que j'entendais autour de moi. Et c'est pour ça que le livre, il s'appelle aussi « Ce que Grindr a fait de nous ». C'est pas tellement pour dire que Grindr, en tant que tel, a fait quelque chose de nous, c'est parce que aussi c'était un refrain. C'est comme un refrain que j'entendais en permanence. Grindr a fait ceci, Grindr a fait cela, Grindr nous rend malheureux, Grindr fait que on se consomme tous les uns les autres, on passe d'un mec à l'autre sans parfois même demander son prénom, etc. Et en fait, je pense que c'est quelque chose... Il y avait vraiment un inconfort dans la sexualité qui était palpable, que je sentais autour de moi, même sans vraiment creuser très très fort. Et je me disais, mais c'est fou parce que, enfin, il est là quand même le malaise et personne ne veut vraiment en parler. Il y avait quelque chose de... Ou alors on en parlait, mais Grindr n'était pas vraiment au milieu de la conversation. On citait Grindr, ah, les mecs sur Grindr et tout machin, mais c'est comme si on passait, le truc était tellement énorme. Je dis dans mon livre l'éléphant au milieu de la pièce, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que Grindr c'est tellement omniprésent, c'est tellement énorme qu'on questionnait pas vraiment en fait le fait même que de base il y avait cette plateforme qui était là et qui était la toile de fond de notre sexualité. Peut-être que je me disais, bah commençons par là en fait. Commençons par là. Nous, on a peut-être des raisons différentes d'être malheureux ou d'être mal à l'aise dans notre sexualité, mais il y a un peu cet objet qu'on a en commun. Commençons par l'analyser, peut-être, pour voir ce qu'il fait, ce qu'on en fait, et peut-être qu'on aura on pourra un peu défaire les nœuds, le nœud de ce mal-être qui est presque communautaire, presque.
Et on pourra en apprendre davantage sur nous-mêmes, quoi, finalement, ce qui est...
Exactement.
Une des raisons d'écrire.
Exactement. Moi, ce que j'ai écrit ce livre et j'ai fait tout un tas de recherches parce que je voulais comprendre comment on l'utilisait et je voulais, par cette enquête, que les personnes qui le liront questionnent à la fin leurs propres usages. Mmh. Moi, si à la fin, les lecteurs, ils disent « Ah, ben moi, ça me fait réfléchir parce que moi, finalement, c'est vrai que je me comporte comme ça, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé et en fait, ça, ben, ça renvoie à telle conception de la masculinité ou autre. » Moi, je me dis que j'ai déjà, s'il y a des lecteurs qui font ça, je me dis que déjà, j'ai fait ma part du travail modestement parce que je pense que il n'y a pas de solution miracle, en fait. C'est pas en mettant plus de modération, c'est pas en mettant des lois, c'est pas en interdisant Grindr, c'est pas en coupant Grindr, c'est pas en régissant Grindr qu'on va finalement arranger les choses. Je pense que ça va passer le mal-être, ou en tout cas, je dis pas que tout le monde est malheureux, mais il y a quand même une partie de la communauté, il faut se le dire, qui ressent un malaise dans sa sexualité. Et je pense qu'on le réglera que si il y a une prise de conscience un peu collective et surtout une interrogation individuelle de ses propres usages de Grindr, quoi.
Et je trouve assez rassurant qu'au tout début du livre, tu nous dis « Ce livre n'est ni un réquisitoire contre Grindr, ni un mode d'emploi pour apprendre à vivre sans. »
Absolument
pas. Il s'agit de l'enquête d'un journaliste à l'aube de la trentaine qui se demande pourquoi Grindr lui colle à la peau depuis les prémices de sa sexualité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as mené cette enquête ? Comment est-ce que tu as commencé ? Qui est-ce que tu es allé voir ? Pourquoi tu es allé voir ces personnes-là ? Enfin, qui est-ce que tu as cherché à rassembler comme protagoniste dans ton enquête pour que pour toi ça fonctionne ?
Alors c'est très marrant parce qu'au tout départ j'ai juste cherché des témoignages. Mmh. Je cherchais des témoignages de gens qui voilà, avaient installé Grindr et vraiment je les recrutais sur l'appli un peu au hasard quoi.
Donc tu t'étais créé un profil
J'étais déjà sur Grindr, hein, faut le dire, enfin, okay. C'était mon vrai profil.
C'était ton vrai profil.
C'était mon vrai profil, sauf que un jour j'ai changé mon pseudo et j'ai juste mis « Ici pour la science ». Et en fait, ce pseudo-là, il a intrigué des gens. Et vraiment, c'est même pas moi qui allais voir les gens, c'est les gens qui venaient me voir en me disant « Mais ici, pour la science, ça veut dire quoi ?» Et donc là, je leur disais « Bon, voilà, je veux faire une enquête, je suis journaliste, je veux faire un livre là-dessus et tout. » Et donc au départ, j'ai eu quelques témoignages et je me suis rendu compte que c'était assez insuffisant. J'avais envie d'aller vraiment plus loin parce que, voilà, en fait, il y avait...
Parce que du coup, c'était juste par message, là, tes premiers...
Ah non, après, je les rencontrais dans un café.
D'accord,
okay. Ah non, après, je les rencontrais vraiment, etc. On discutait une heure, deux heures. Donc, vraiment, ça allait loin. Mais après, une fois que j'avais ces premiers entretiens, ils me donnaient quelques pistes. Parce que, voilà, j'avais quelques réflexions, quelques remarques qui revenaient de manière générale. Et donc ça, c'était le début. Et en fait, après, j'ai rencontré mon éditrice à la thèse, Jeanne Morozov, qui aussi m'a dit « Ah, mais tu ne penses pas que ce serait bien de resituer aussi Grindr dans l'histoire de la rencontre entre hommes ?» Et moi, j'avais cette idée un peu là en tête, mais c'est vrai que ça m'a convaincue de dire « Il faut aller beaucoup plus loin. » Et c'est là que je me suis dit que j'avais envie d'aller voir... aussi ce qui s'était fait sur Grindr, et il n'y a pas grand-chose qui s'était fait sur Grindr au niveau de la recherche, en tout cas. Donc en fait, au départ, pour ce qui est de la recherche, parce que je me suis dit que les témoignages, ce ne serait pas assez, et que je voulais vraiment avoir des avis scientifiques et quelque chose de vraiment tangible sur Grindr, qui ne soit pas de l'ordre que de l'expérience personnelle à droite à gauche, mais quelque chose de solide, quoi. Donc j'ai d'abord cherché les travaux les plus évidents qui ont été faits sur Grindr en France, et ils sont peu nombreux. Donc il y a notamment Anthony Fouet, le chercheur, qui a fait une thèse sur Grindr. Il y a un géographe, Clément Nicole, qui a fait des travaux là-dessus. Et finalement, après, ça fait un corpus assez restreint. Donc après, j'ai plutôt élargi. Je me suis dit, mais en fait, les entretiens avec des utilisateurs, ça suffit pas. Moi, j'ai envie de savoir aussi ce que les médecins et ce que les psys qui voient des gays toute la journée, ils en pensent de tout ça.
Et quand tu vas voir des médecins, des psys, des sexologues, tous t'ont dit que Grindr était omniprésent dans leurs consultations avec des patients gays. Donc, il y a les utilisateurs, la recherche, le corps médical, ça fait trois sources. Mais ton livre, c'est aussi une enquête intime. Tu t'es questionné sur tes pratiques, ton rapport à l'application. Et c'est aussi ce qui donne toute son épaisseur au livre.
Oui, oui, bien sûr. Ben, en fait, moi, je voulais faire entendre aussi mon point de vue et je trouvais ça important parce que je trouvais que ça n'avait pas encore été trop traité, ce point de vue-là de quelqu'un qui n'a connu vraiment que ça et qui n'avait rien connu avant. C'est-à-dire que moi, j'ai installé Grindr, j'avais jamais eu d'expérience, j'avais jamais eu de copain. Moi, je trouvais qu'aussi, j'étais, au-delà de mon cas personnel, j'étais une illustration d'une fenêtre générationnelle qui vraiment entre dans l'âge adulte pile au moment où Grindr commence à exploser en France, donc en 2012-2013, qui est une période qui voit aussi l'arrivée de nouveaux acquis sociaux et de nouveaux droits comme le mariage pour tous. Donc en fait, il y a vraiment cette concomitance et ce contexte social bien particulier qui fait que je trouvais que moi, à plus de 10 ans, j'avais quelque chose à raconter puisque ça avait... au-delà de ma trajectoire personnelle, le choix d'aller sur Grindr et tout, je pense que c'est un contexte social, un contexte de l'homosexualité en France que mon histoire, elle raconte aussi, en fait. C'est ça que je voulais dessiner aussi un peu, cette trajectoire qui en appelle et qui est semblable à beaucoup d'autres, je pense.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+. Sur Radio Campus Paris.
J'ai envie de parler du body count. Le body count, c'est le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu, par exemple. Moi, je crois que c'est 7. Le body count des Françaises à la fin de leur vie, en moyenne, c'est 10, des Français et des Françaises. Or, le body count d'un gay trentenaire qui a Grindr sur son téléphone et qui vit en ville aujourd'hui, de nos jours, s'approche plutôt des 50, 100, 200. C'est pas Grindr qui a enclenché ce phénomène, tu nous l'expliquais, ça tire ses racines depuis bien plus longtemps. Depuis toujours, la communauté PD a un body count plus élevé que la moyenne. Comment ça s'explique historiquement? Il y a plusieurs fils que tu tires dans ton essai, plusieurs hypothèses que tu fais. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes?
Oui, alors en fait, il faut remonter à loin en arrière, à plus d'un siècle en arrière, même quand l'homosexualité elle était interdite. En tout cas sanctionné par les lois, donc ça vaut pour la Belle Époque, ça vaut pour l'entre-deux-guerres et ça vaut pour même l'après-guerre, enfin la France sous Vichy et même l'après-guerre. C'est pas toujours les mêmes lois qu'ont sanctionné les amours entre hommes. Il y a eu un arsenal législatif qui était différent selon les époques, mais en tout cas ça faisait que il n'était pas trop concevable en fait d'être en couple avec un homme. La vie conjugale avec un homme a longtemps été quelque chose de un impensé en fait. Donc les rencontres entre hommes, elles se faisaient dans des lieux souvent publics ou semi-clos. Et l'homosexualité, la sexualité homosexuelle, c'est une sexualité clandestine, anonyme et historiquement du coup basée sur le multipartenariat. Parce qu'on se rend sur un lieu, on a un rapport sexuel et finalement après on se quitte. Et il n'advient rien de cette rencontre qui a eu lieu le temps de quelques heures. Quoi. Alors évidemment, il y a plein d'exceptions, il y a quand même des gens qui ont réussi à vivre ensemble, et il y a des couples qui ont perduré malgré les lois, etc. Mais en tout cas, la culture homosexuelle au départ, il faut partir un peu de l'interdit pour comprendre Grindr et pour comprendre le multipartenariat, c'est ça. Et après, le multipartenariat, même s'il y a eu des nouveaux droits, il a perduré parce que, en fait, finalement, il est devenu après synonyme de liberté. De liberté, quand l'homosexualité est devenue aussi une lutte politique pour la visibilité, et c'est devenu aussi un mode de vie, que là, on l'a fait pour s'affranchir, finalement, aussi des normes hétérosexuelles. Et donc, voilà, après. Comme aussi les gays se sont jamais rencontrés, ont beaucoup très vite investi les outils en fait qui étaient d'autres outils que la vie réelle pour se rencontrer. Donc ils ont investi les petites annonces, le Minitel, les lieux de drague qui sont jamais morts finalement. Puis après les sites internet, ces outils-là aussi, ils ont entretenu cette culture du multipartenariat.
Quand tu nous parles de Grindr, tu nous parles aussi de patriarcat, de masculinité hégémonique. Comment est-ce que tout ça infiltre cette application? J'aimerais que tu nous parles en particulier du rapport au corps que Grindr peut induire et du rapport notamment à la détestation de son corps. Tu parles de troubles alimentaires qui sont particulièrement exacerbés dans la communauté gay, PD. Parfois même plus qu'auprès des femmes hétérosexuelles, dont on parle beaucoup, mais on n'en parle pas beaucoup, des troubles alimentaires dans la communauté PD gay. Est-ce que tu veux nous en dire un mot de ça, du rapport au corps?
Alors j'en dis beaucoup de mots, j'en dis beaucoup de mots dans le livre, mais pour en dire un mot, le rapport au corps, le rapport au corps, il est intrinsèquement lié, en tout cas chez les hommes, on va le dire tout court, et donc d'autant plus chez les gays, les gays ne sont pas épargnés par ça, par le rapport à la masculinité. Il y a un rapport qui est quand même assez complexe au corps, et en fait, je pense que Grindr, et en tout cas les critères de désirabilité, parce que ce n'est pas Grindr, quand je dis Grindr, c'est les usages, mais nous, collectivement, les échelles de désirabilité qu'on met en place font que finalement le corps idéal, c'est presque un corps qui est inatteignable. Enfin, même le corps désirable et normal est une norme extrêmement élevée qui est très difficile à atteindre, qui fait que finalement peu de gens peuvent se le permettre, et quand ils se le permettent, souvent c'est au prix de beaucoup de sacrifices, mais ils le disent pas forcément, et ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'être finalement, enfin pour beaucoup, hein, incomplet, au rabais, insatisfait de son corps. Et en fait, souvent quand on est insatisfait de son corps, on finit par extension par être insatisfait de soi-même, quoi.
Et en lien avec cette question, donc dans le livre, tu nous dis que Grindr est un miroir grossissant des mécanismes de domination qui structurent les rapports au sein de l'homosexualité masculine, mais on pourrait dire de toute la société. Mm-hmm. Et tu nous parles, je vous disais en introduction que je vous parlais de la page Instagram Personnes racisées versus Grindr, mais il y a aussi beaucoup d'autres pages qui nous parlent de sérophobie, de transphobie, enfin il y a les discriminations sont innombrables. Tu as rencontré au fil de ton enquête une personne qui s'appelle Marc Jaja, ouais. C'était important pour toi d'entendre d'autres voix que des voix d'hommes cisgenres blancs. Pourquoi est-ce qu'elle était importante, cette rencontre avec Marc ? Sur quelle piste est-ce qu'il t'a mis ?
Ah non, mais c'était fondamental de faire entendre la diversité des points de vue, et surtout de faire, parce que moi, enfin, faut le préciser quand même, je suis blanc, je suis valide, je suis pas, enfin, je suis pas gros, hein, on peut le dire, voilà, je suis, et puis je suis aussi, j'évolue maintenant, je suis journaliste à Paris, j'évolue dans un milieu aisé, donc en fait moi je suis par définition biaisé, donc il fallait absolument que, à la limite sur Grindr, je suis presque un privilégié de base, rien que par ma description. Donc il fallait absolument que je fasse entendre d'autres voix, ceux qui sont plus marginalisés que moi sur les applis de rencontre, donc les personnes racisées, les personnes trans surtout, les personnes non binaires, enfin voilà, il fallait les personnes séropositives aussi, au VIH, que je vais parler aussi dans le livre. Et Marc Jaja, c'était très important parce que il y a vraiment des logiques de discrimination ou de domination raciale sur Grindr qui sont très fortes. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Anthony Fouet, le chercheur qui a fait une thèse sur Grindr, mais aussi Florian Voros, qui a fait tout un travail sur les désirs des hommes, qu'ils soient hétéros ou homo. Et il y a quelque chose que vivent énormément de personnes racisées sur Grindr, c'est la fétichisation, en fait. C'est le côté de quand tu arrives sur l'application, quand tu es une personne racisée, tout de suite tu es vu, je sais pas, soit tu es racisé, une personne noire, et donc tu seras mis dans une telle catégorie, on te prêtera tel rôle sexuel, on te prêtera telle pratique, et on t'en prêtera d'autres si tu es vu comme quelqu'un qui est plus une personne arabe, on dit rebeu sur les applis, parce que sur Grindr tout est très décomplexé, le langage est très décomplexé, donc c'est cherche black, cherche rebeu, domi, voilà quoi, c'est, enfin, tout est très brut. Et Marc Jaja, lui, ce qui m'avait intéressé dans son travail, c'est que au-delà d'être victime très régulièrement de fétichisation de manière lambda, comme il est chercheur, maître de conférence en infocom, il avait lui-même fait un propre travail, en fait, d'analyse sur pourquoi est-ce que je suis fétichisé sur les applications de rencontre. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Marc, il part du principe qu'il y a plein de contextes sociaux de sa vie classique où, en fait, il peut passer pour presque un blanc. C'est ce qu'il dit. Parfois, on me voit comme un blanc. Parfois, on me dit que je suis pas vraiment un arabe. Mais sauf que quand il arrive sur Grindr, paf, direct, c'est des mecs qui l'abordent et qui lui disent Aladdin, je te connais, tu me rappelles, je suis allé au Maghreb, sans dire bonjour, hein. Ah, je suis allé à Tunis l'été dernier, c'était super. Donc voilà, enfin, genre, il comprenait pas pourquoi, en fait, il paraissait arabe tout de suite, sans le dire. Et donc, en fait, il a fait tout un travail de pourquoi il apparaît comme arabe et pourquoi est-ce que, en fait, du point de vue de ces personnes-là, des utilisateurs qui sont racisants, pourquoi est-ce qu'elles ont besoin, ces personnes-là aussi, de le raciser, c'est-à-dire de le mettre dans une catégorie précise. Et alors après, derrière, ce que je développe dans le livre, c'est que voilà, y a un effet de catégorisation qui est vraiment une logique qui est très présente sur l'appli, qui qu'on soit. C'est-à-dire que catégoriser quelqu'un, ça permet de se rassurer et de construire quelqu'un qu'on n'a pas vu. Mais aussi, c'est parce qu'il y a, voilà, dans l'homosexualité masculine et dans les désirs masculins, il y a aussi toute une culture ancienne de finalement de fétichisation, de désir, d'un espèce de corps exotique qui renvoie aussi à l'histoire coloniale. Enfin voilà, ça c'est ce que je développe aussi un peu dans le livre et ce que développent les autres chercheurs dans leur livre aussi. Et donc c'était très important pour moi, mais même primordial, parce que c'est en fait incessant et omniprésent de parler de fétichisation.
Merci beaucoup. J'ai envie de terminer cette interview avec de la douceur, avec l'évocation à la fin du livre des amitiés PD qui sauvent de plein de choses, y compris de l'homophobie internalisée et de la violence. Tu veux nous en dire un mot ?
Oui, en fait, c'est une piste que j'évoque à la fin du livre pour ceux qui auraient, par exemple, un usage assez tourmenté de Grindr. C'est pas une solution miracle, mais c'est une solution qui pour moi a aidé, parce que je suis pas en fait un partisan de dire que il faut absolument quitter Grindr. Voilà, je me dis que parfois si on quitte Grindr trop brutalement, ça peut trop accentuer la solitude. Moi, pendant longtemps, j'avais pas eu beaucoup d'amis queer. J'en avais quelques-uns évidemment, mais j'en avais pas énormément. Et donc, finalement, la plupart des hommes que je fréquentais, c'était via Grindr. Et donc, pendant très longtemps, mon homosexualité, mon homosociabilité, en fait, s'est résumée à ma sexualité. Et voilà, il y a quelques années, j'ai commencé à vraiment intégrer voilà, des groupes, à me constituer ma petite bande de potes vraiment gays, où en fait il y a que de l'amour et où les rapports sont vraiment dépourvus de séduction. Et en fait je trouve que ça m'a construit un autre rapport aux autres hommes, quoi. C'est-à-dire de se dire qu'on peut être amis, qu'on peut partager des choses. Ça m'a permis aussi de m'acculturer, de développer toute une culture queer, en tout cas de l'approfondir. Et en tout cas, ça m'a permis, je pense, de briser la solitude et de ne pas, en fait, sans cesse être dans un rapport de confrontation, de concurrence avec les autres mecs. Et voilà, je pense que c'est peut-être pas une solution miracle, c'est peut-être pas une solution qui se met en place du jour au lendemain, ça se construit, c'est laborieux, c'est sur le temps long, il faut rencontrer les bonnes personnes. Mais moi, je pense que voilà, les amitiés PD, si elles sont choisies, si elles sont entretenues, si elles sont bien faites, elles peuvent justement soulager, consoler cet usage troublé que beaucoup peuvent avoir vis-à-vis de Grindr.
Merci beaucoup Thibaut. Ton livre « Ce que Grindr a fait de nous » est sorti ce mercredi 5 février 2025 aux éditions J.C. Lattès dans la collection Nouveaux Jours. Il est disponible à la commande dans toutes les librairies et je vous engage à le lire, à l'acheter à vos amis PD et à les aimer très fort. Une soirée de lancement de ton livre est organisée ce soir, ce vendredi 7 février, à l'iconique librairie Les Mots à la Bouche qui est située à Paris. Et une table ronde et une dédicace seront organisées au Festival du Livre à Paris le 13 avril 2025. Thinking about boys. On se quitte avec le remix de Boys de Charlie XCX par Baby B, qui est un artiste de la scène queer parisienne. C'est une dédicace à tous les utilisateurs de Grindr. On vous voit, on vous aime. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux Baby B et le retrouver à la prochaine soirée queer Club Yaoi qu'il organise au Sample à Bagnolet le 21 février pour une édition féerique. Cet épisode a été présenté par Lucie et réalisé par Colin. Tous les épisodes sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur le site de Radio Campus Paris. Pour nous soutenir, suivez-nous sur Insta et n'hésitez pas à mettre des étoiles. À la semaine prochaine, bisous.
Thinking about boys.